C'est ça la classe.
Bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Diwa 107.5, la radio Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. Et l'équipe de chroniqueurs de lycéennes et de lycéens fidèles au poste comme une fois tous les 15 jours, dans ces spéciales municipales où on se retrouve même une fois par semaine quasiment en ce moment, a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Trémollet, qui est un des candidats à la mairie de Die. Nous le recevrons dans exactement 20 minutes à 12h30. Nous devions aussi recevoir, nous avions annoncé le maire de Die actuel, Monsieur Bergignat. On a appris hier qu'il ne pouvait être présent aujourd'hui, on l'a réinvité et on attend donc la réponse. Donc dans 20 minutes, Monsieur Trémollet, et pour l'instant, comme d'habitude, nous allons partir sur les coups de cœur et coups de gueule de l'actu, en commençant peut-être par l'Ukraine. On vient d'en entendre parler dans le flash de RFI. Et Ulysse, je crois, quelque chose à nous dire sur ce qui se passe sur cette fameuse place à Kiev. On voit beaucoup d'images impressionnantes, proches de la guerre civile quasiment, ou de la rébellion, la révolte en tout cas.
Oui, bonjour à tous. Alors, cette nuit, en effet, sur la place Maïdan, dans le centre de Kiev, a vu plus de 20 morts cette nuit, sont arrivés sur la place Maïdan, des deux côtés, plusieurs policiers et plusieurs manifestants, beaucoup plus de manifestants, bien évidemment. On a vu hier soir, avant de se coucher, des grandes flammes sur les barricades, les manifestants avait la volonté de stopper les policiers car le président Yanukovych a déclaré hier vouloir virer les manifestants de cette place Maïdan. Ils ont coupé le métro pour que les manifestants ne puissent plus aller sur cette place qui a été rebaptisée Euromaïdan, parce que ce sont des manifestants qui sont en faveur de l'Europe. Et donc, toute la nuit, ça a été grenade lacrymogène contre pavés à peine arrachés. Toute la nuit, et comme depuis plusieurs mois, les discours politiques se sont enchaînés à la tribune pour encourager les manifestants à rester et à tenir face aux troupes d'élite du gouvernement ukrainien. Et donc voilà, ça c'est les faits des dernières 24 heures. Pour ma part, pour mon opinion...
C'est ce qui nous intéresse.
On est là pour
ça. Et c'est bien d'avoir rappelé les faits parce que tout le monde n'est pas forcément au fait de tout ça.
Donc,
qu'est-ce de le dire.
Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que Monsieur Yanukovych, le président ukrainien, est donc pro-russe. Et c'est aussi ce que l'on a peu dit, ce que j'ai entendu ce matin, c'est que la Russie qui aide l'Ukraine ne l'aidera et ne débloquera des tranches d'aide uniquement sous la condition que la place Maïdan ait été vidée des manifestants et que ces manifestants aient été matés. Donc cette place Maïdan, qui signifie la place de l'indépendance, cette volonté était là pour le gouvernement de mater cette rébellion ou cette révolution, je ne sais pas encore comment il faut l'appeler. À mon avis, on est au-delà de manifestations maintenant avec ces violences. Et donc je vais arriver enfin pour mon avis. Je pense que ce président Yanukovych, il faut le nommer comme il est, c'est un dictateur. Sanguinaire peut-être, pas tout à fait, mais il y a eu déjà quelques morts. Mais je pense que l'Europe, la communauté internationale doit intervenir. Il y a le sommet franco-allemand ce matin, et c'est apparemment l'invité de dernière minute, cette problématique ukrainienne. Et l'Europe se doit d'intervenir et se doit de stopper le président Yanukovych et le gouvernement dans cette course à la violence que l'on doit stopper tout de suite, et il n'y aura pas de conflit d'ingérence. L'Europe et la communauté internationale doivent intervenir pour stopper le gouvernement ukrainien.
Donc vous êtes d'accord avec ça, les autres? Vous pensez qu'on doit intervenir? Une fois de plus, on doit jouer un peu les gendarmes du monde? De l'Europe? Non?
Pour moi, oui, voilà, c'est ce que je viens de défendre.
Parce qu'on a compris. Alors je vais en profiter parce qu'on a démarré un peu rapidement. Aujourd'hui, on a à la technique l'excellent, j'espère, on verra par la suite. Je mets la pression sur les épaules. Je crois qu'on nous entend et que tous nos auditeurs peuvent, sans problème et incident du direct, dont on s'excuse puisque la semaine dernière, Monsieur Jouve, j'en profite pour le dire d'ailleurs, il est réécoutable sur le podcast de RDIWA dans l'après-midi même. Nos parfaits lycéens ont pu mettre en podcast l'interview de M. Jouve et l'échange qu'ils ont eu. Et vous avez donc les deux podcasts désormais, la première rencontre avec M. Lewenberg et la deuxième avec M. Jouve. Et aujourd'hui, normalement, si tout va bien, vous pouvez nous écouter en direct jusqu'au bout grâce à Jean-Raphaël qui est donc présent. Bonjour Jean-Raphaël.
Bonjour à tous.
Nous avons également Jimmy, un fidèle, Sophie, non moins fidèle. Bonjour Sophie. Ulysse, vous l'avez entendu et reconnu. Anne-Sophie.
Bonjour.
Magda.
Bonjour.
Et Théo.
Bonjour.
Vous êtes en forme pour poser des questions tout à l'heure à Monsieur Trémollet, dans maintenant un quart d'heure. Donc sur l'Ukraine, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Ulysse? Vous étiez au courant un petit peu de tout ça? Ulysse est particulièrement affûté, vous l'êtes tous, mais par rapport à l'actualité, nous a fait un portrait assez précis de la situation. Vous arrivez à suivre ça, bien que certains soient internes, je pense à Théo et à beaucoup de ceux qui sont autour de la table. Est-ce que vous arrivez à suivre l'actualité, malgré votre statut terrible d'interne de lycée? Oui,
non,
Jimmy.
En fait, bon,
alors, tu arrives en cours de retour. On parlait de l'Ukraine. Hein.
Ouais, je sais. Oui. J'ai compris.
D'accord.
Mais on suit pas du tout l'actualité, donc j'ai pas du tout ce qui se passe en Ukraine. Mais j'ai compris votre question. Donc, est-ce qu'on doit, pour moi, enfin, on doit pas faire les soldats du monde comme les Américains l'ont fait pendant des années avant, parce que, enfin, la France, déjà qu'on est un peu en galère sur tout ce qui est crise et tout, c'est pas un moment pour aller aider n'importe qui dans le monde. Quand ils ont des problèmes, donc on a aidé le Mali, d'accord, parce qu'ils avaient des problèmes et tout ça, mais bon, après on va pas non plus aller aider chaque nation qui a des problèmes sous prétexte parce qu'on est un pays qui est assez puissant.
Mm-hmm. L'Ukraine c'est quand même assez proche de chez nous. Enfin,
c'est les portes
plus
de l'Europe.
C'est pas non plus n'importe qui, je pense. Tu vois.
Mais même si
ça s'est lancé, Anne-Sophie.
Non, mais je sais pas.
Bah, les Ukrainiens.
Je pense qu'on doit pas être les seuls à intervenir en tant que Français, mais voilà.
si on intervient à plusieurs. C'est pas comme au Mali, on est intervenu tout seul ou on était tout seul. Il faut qu'on intervienne avec beaucoup de gens de l'Europe.
Ce n'est pas la France à intervenir, c'est pour moi c'est l'Europe, c'est vraiment une question européenne. Voilà, l'Union européenne a peut-être la volonté de rentrer dans l'Union européenne. C'est une question qui doit se régler par l'Union européenne. On attend toujours cette Union européenne de la défense que l'on ne voit pas depuis plusieurs dizaines d'années, que l'on attend toujours, en tout cas pour ma part. Et je pense que c'est une réponse européenne qu'il faut donner. Je pense que la diplomatie européenne, représentée par Catherine Ashton, qui est une très grande diplomate, doit intervenir. Et le sommet franco-allemand d'aujourd'hui, avec le Conseil des ministres commun, doit prendre des mesures. Je ne sais pas de quelle manière elles peuvent être. Mais nous ne pouvons pas ne rien faire et laisser Maïdan se faire prendre par les troupes d'élite du dictateur Yanukovych.
Oui, mais on ne peut pas non plus. Fin...
Tu ne penses pas que les autres pays dictateurs, et bon, comme il y en a, l'Europe elle va venir par exemple aider les manifestants, que de l'autre côté, les pays dictateurs, ils n'allaient pas aider le gouvernement?
Eh bien, la Russie aide déjà le gouvernement. La Russie aide le gouvernement, j'ai envie de dire, c'est le... C'est un peu l'affrontement. Est-ce qu'on a envie de récupérer l'Ukraine?
On n'arrive pas dans une guerre civile alors. Parce que s'il y a plein de tout le monde qui se rajoute, ça va être...
Pour moi, on doit intervenir.
On doit intervenir, mais vraiment en masse. Parce que si on intervient tout seul, c'est comme je suis assez d'accord avec Théo, avec ce que dit Théo, les autres pays pourraient venir aider et ça pourrait déclencher une vraie guerre. Contrairement à si on intervient à plusieurs, sachant que les Américains sont quand même nos alliés, là ça va vraiment faire des alliés de poids. Et donc si on intervient à plusieurs, ça empêchera peut-être une action des autres pays voulant aider.
Par rapport au Mali ou à la Centrafrique, c'est quand même quelques centaines ou quelques milliers de manifestants sur peut-être 10 km carrés. Il ne faut pas non plus penser que ça va partir en guerre civile, mais en tout cas menacer peut-être de sanctions économiques ou de choses de ce type-là pour presser le gouvernement ukrainien à laisser faire ces manifestants, parce que l'Ukraine, il me semble, à mon avis, n'est pas encore un état de droit et on doit l'y conduire.
Non, il y a des progrès à faire en termes de démocratie, ça c'est sûr. Et puis, dans la Russie tout entière encore, on l'a vu à l'occasion des JO, on en parlait la dernière fois, et avec M. Poutine. Dans l'actualité de ces derniers jours aussi, on a cette rencontre entre M. Hollande et les patrons. Certains ont dit qu'il a un peu convoqué les patrons. Ils sont sortis plus ou moins satisfaits de cette rencontre. Est-ce que vous pensez important qu'il y ait comme ça une journée où le chef de l'État affiche une espèce de proximité avec les patrons? Un chef d'État de gauche en plus, donc le symbole est double. Est-ce que c'est important qu'il y ait un signal positif envoyé au patron pour que ceux-ci aient envie de croire en la France et d'investir dans ce pays, Jimmy?
C'est ce que je pense. Il faut quand même qu'il y ait un contact entre le président et les patrons pour qu'ils montrent quand même qu'ils soient présents. Pour que c'est ça. Après, les patrons n'aient pas envie de faire comme la plupart font, qui sont très riches. Ils n'ont pas envie d'aider. Enfin, ils n'ont pas envie de perdre leur argent, comme ils disent. Enfin, alors que c'est pas du tout perdre, c'est les impôts, c'est légal. Enfin. Ce qu'il faut, quoi. Et les patrons, ils peuvent à ce moment-là, quand ils voient leur fortune qui s'en va comme ça et qu'ils disent ouais, c'est bon, moi je vais pas aider la France pour parce qu'elle est en crise, ils veulent mettre leur compte à l'étranger
tu
dans les paradis
des taxes, des impôts, des charges,
voilà.
Charges sociales,
des paradis
notamment.
Fiscaux. Alors que là, s'il y a un contact avec les patrons, s'il y a un contact avec les patrons, du coup, ça va peut-être leur donner envie d'investir voilà dans la France et de rester en France et de laisser leur argent au gouvernement français au lieu de le mettre quelque part d'autre et faire les égoïstes.
D'accord,
mais,
Anne-Sophie.
Après, juste une journée comme ça. Ça fait un peu, je trouve que c'est un peu de l'hypocrisie parce qu'en une journée on va pas pouvoir tout régler et c'est, je pense que c'est plus pour faire bien devant les médias et que c'est un peu qu'ils se donnent un peu un devoir de faire ça une journée, mais je pense que c'est pas ça qui va régler le problème et ça suffit pas.
C'est mieux rien que rien quoi.
C'est de l'affichage pour Anne-Sophie, mais c'est mieux que rien pour Jimmy, si je résume.
C'est mieux que de jamais leur parler et de rien faire pour...
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus, alors J'ai l'air de dire que c'est un peu un minimum vital, pardon, Ulysse, Jimmy.
Bah,
c'est
faire...
mieux que rien, donc c'est un peu nuancé comme jugement.
Il faudrait peut-être faire peut-être deux jours, même prolonger sur
deux jours au lieu d'un jour.
Ouais, non, mais faudrait prolonger sur plus longtemps pour vraiment pouvoir régler les problèmes qu'ils ont et vraiment être en contact avec eux. Mais après, s'il fait ça, ça va forcément entraîner le fait qu'il doit le faire non pas juste avec les patrons, mais avec tous les... les dirigeants de firmes ou de n'importe quoi qui sont en France.
Mmh.
Autant, mais
et pas oublier les PME aussi, puisque il y a, oui, voilà. Y a les. Bon, d'ailleurs, il y en a fait, je crois, pas dire de bêtises, je ne sais pas si c'est très près, mais souvent, hein, on oppose, c'est pas le mot, mais au contraire, on fait un amalgame entre les très, 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 très grandes entreprises et peu nombreuses en France par rapport à ce qu'on appelle les PME, petites et moyennes entreprises, qui ont moins d'employés et qui ont aussi des charges et qui, d'ailleurs, souvent, paradoxalement, n'arrivent pas à se faire exonérer d'un certain nombre de charges, les grosses ayant les moyens, les subterfuges, je parlais des paradis fiscaux, c'est évidemment un maximal, mais il y en a d'autres, pour contourner en quelque sorte ces charges. Ulysse ?
Ouais, alors moi je veux partir dans un point qui me paraît beaucoup plus critique, c'est que donc on voit depuis plusieurs mois, et même depuis les vœux du président le 31 décembre, et avec le pacte de confiance qu'il a annoncé en janvier, Hollande,
de responsabilité,
excusez-moi. Donc Hollande est devenu, je ne sais pas si c'est le bon terme, patron compatible, on va dire. Donc il assume totalement cette ligne social-démocrate, voire social-libérale. Et donc moi qui ne suis pas d'accord avec cela, dans le sens que il parle avec ses patrons, avec ses dirigeants, à qui il va donner de l'argent, parce qu'il va faire des crédits d'impôt de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Et donc, je pense que cela n'est pas normal. L'État, entre guillemets, finance, aide le patronat. Donc, l'État doit imposer... donc, l'État impose cela aux patrons. Et les patrons, M. Gattaz a dit hier, encore une fois, oui, il y a quelques jours, qu'il ne voulait pas, qu'il n'était pas question de demander au patronat des contreparties. Et je trouve ça proprement scandaleux, car l'État donne plusieurs dizaines de milliards d'euros aux patrons. Or, le patronat ne veut rien donner en échange, ne promet aucun emploi, ne veut aucune contrepartie et refuse tout dialogue. C'est donnez-nous, faites-nous confiance. Mais on sait que ces personnes-là sont attirés totalement par l'appât du gain et on ne voit en rien leur volonté et leur volonté profonde de créer de l'emploi. Et ils nous disent, on va créer de l'emploi, mais on ne veut pas de contrepartie, on ne veut pas de contrepartie obligatoire. C'est proprement scandaleux.
Donc tu penses que ça va à l'encontre d'un pacte, justement, la définition même du pacte, ce que tu es en train de nous dire.
Ah oui, en plus d'être complètement sur cette ligne-là, il est pillé, pour moi, il est pieds et poings liés au MEDEF.
D'accord. Pendant qu'Ulysse poussait son petit coup de gueule, Monsieur Trémollet, candidat au municipal, vient d'arriver, entouré d'ailleurs, puisque il n'est pas tout seul, peut-être qu'il va nous présenter les gens avec qui il est venu. Bonjour Monsieur Trémollet. Ulysse,
oui,
tu veux bien donner le casque à Monsieur Trémollet qui s'installe et qu'on va saluer donc. C'est un peu fort, vous pouvez régler le son normalement en suivant le fil. Ça ira mieux. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
On va simplement terminer notre petit débat et vous accorder dans 5 minutes la parole et peut-être présenter les. Je vois que vous êtes venu en force.
Non, pas tellement en force, mais c'est un petit peu la conception que je fais du rôle du maire, du futur maire en tout cas. Je ne suis en fait que le porte-parole de l'équipe. Si vous voulez, nous, le projet, il a été travaillé ensemble. On a fait ça à plusieurs. Et le maire, en fait, c'est un conseiller municipal comme les autres, avec en fait une fonction particulière d'animation et de décision quand c'est le moment. Donc je suis accompagné par M. Bernard Feuilleten,
Bonjour monsieur.
Et également par Marilène Moucheron.
Bonjour. Bonjour à vous. Donc qui font partie de votre équipe ?
Qui font partie de mon équipe et qui nous ont aidés depuis quelques mois à constituer un petit peu notre projet, parce que c'est un projet qu'on va présenter pour le bien-être et le développement économique de la ville de Die.
D'accord, on vous donne la parole dans 5 minutes, vous avez 40 minutes d'échange avec les lycéens. On termine juste une petite tour de table sur l'actualité. Alors on a parlé beaucoup aussi ces derniers temps, on va terminer avec ça. 5 minutes, ça va peut-être un peu court, mais on va faire au mieux. De la théorie du genre, qui n'existe pas vraiment. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ce sujet-là ? Est-ce que vous êtes allé voir le fameux livre, bande dessinée, la fameuse bande dessinée qui crée tant de polémiques ?
Que Jean-François
en tout
Copé
cas que Monsieur Copé a...
Personne ne la connaissait, il l'a mis sur la place publique, il l'a fait connaître à tout le monde alors que personne ne connaissait ce livre. Et il a fait ce livre, et depuis qu'il l'a dit sur un plateau, la première vente sur Amazon.fr, donc moi ça me fait bien rigoler.
C'est contre-productif par rapport à ce que vous voulez dire, Monsieur Copé, c'est ça que tu es en train de nous dire.
Il y a un nom pour cet effet-là, que de quelqu'un qui veut de ne pas faire parler de quelque chose en parlant. En voulant l'interdire, on fait beaucoup plus parler, il y a un nom.
Est-ce que vous pensez que c'est à l'école de traiter ce genre de sujet, parce que c'est un peu un argument de ceux qui sont contre, même au-delà de ce livre-là, qui est un peu anecdotique. Est-ce que ça fait partie des missions de l'école de parler de ça, la différence entre les filles et les garçons, les non-différences, l'égalité entre les deux, au moment où on parle beaucoup de parité?
C'est le rôle de l'école ou pas, Anne-Sophie ? Dans son rôle d'éducation, l'école a aussi le rôle de... un peu d'enseigner ça, après c'est aux parents aussi à le faire, mais je pense que ça doit pas faire un scandale à ce point-là, et que après ça dépend peut-être, enfin ça dépend de l'âge, c'est sûr, à laquelle on l'enseigne.
Là mais... c'était à l'école primaire en l'occurrence,
voilà.
Sur ce livre-là. Magda, Sophie, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'il faut parler de l'égalité entre filles et garçons, ou est-ce que c'est évident pour vous, dans votre génération à vous ? Est-ce que vous naissez dans votre ADN avec l'idée que les filles et les garçons ont les mêmes chances, ou est-ce que vous pensez que c'est pas si évident que ça encore aujourd'hui, en 2014 ?
Moi je pense que, qu'on est tous pareils, égaux, sauf que plus on grandit, plus on se rend compte que non, il y a des différences, déjà rien qu'avec le budget, des salaires. Et puis, je pense qu'au début, quand on est enfant, on est tous égaux, et plus on évolue, plus on se rend compte que... quand il y a beaucoup de différences et qu'on n'est pas traité, on n'a pas les mêmes chances.
Anne-Sophie ?
Par rapport à ce sujet aussi de l'égalité entre les hommes et les femmes, j'ai entendu dire que dans certains pays aussi, jeunes, on ne voulait plus différencier une fille d'un garçon, ne plus dire il ou elle, mais justement pour laisser leur... Enfin, on en avait déjà parlé dans des
oui,
anciens
CCC. Dans certains pays nordiques, je crois.
Ouais. Oui, mais ça, moi, je trouve ça un peu honteux, parce qu'on est... On est un homme, on est une femme, on a nos propres différences, et c'est ça qui fait aussi... c'est pas pour ça qu'on sera pas égaux plus tard. C'est aussi grâce à ces différences.
D'accord. Jimmy, pour terminer.
Moi je pense qu'en fait on est égal... qu'on est égaux.
On est égal. En fait, on est égal. Nous sommes égaux ou on est égal.
Ouais, que nous sommes égaux sans être égaux, dans le sens que... qu'il y a forcément des différences entre le corps d'une fille et le corps d'un homme. Et... par contre, je pense que l'éducation, donc des parents, même si on étudie à l'école, ça ne changera rien à ce que les parents nous disent. C'est-à-dire que si on arrive au collège et que depuis qu'on est tout petit, nos parents nous répètent que les hommes sont prioritaires sur les femmes, qu'on l'étudie à l'école ou pas, ça ne changera rien, je pense.
Ça, c'est pessimiste sur l'ordre de l'école. L'école ne peut pas changer du tout la conception.
Non, parce que forcément, quand on est et que depuis 12 ans, on nous répète ça, ça pourrait être utile dans le sens qu'il va peut-être y repenser et tout. Mais je pense que si depuis 12 ans, on nous endoctrine à nous dire ça, on va pas changer directement d'esprit en écoutant ce que nous disent, même si c'est l'école et que c'est important. C'est pas... Ça vient surtout de l'éducation que portent les parents à leurs enfants. Ouais. Après, il faut quand même pas dire que nous sommes totalement égaux, parce que sur le plan physique, il y a des choses que les femmes peuvent faire et que les hommes ne peuvent pas faire, et les choses que peuvent faire des hommes que les femmes ne peuvent pas faire.
Moi, je pense pas qu'on peut dire que l'école, ça nous apporte rien, vu qu'il y a des parents qui pensent à l'éducation et ne disent pas assez que... on voit des gamins qui disent non, toi t'es une fille, on veut pas, machin. Ça existe au sein des jeunes enfants, et il faut qu'à l'école ils leur montrent, et que souvent dans l'école primaire, les maîtres et maîtresses, ils expliquent et leur faire réfléchir, même quand on est petit. C'est ici où on garde le plus de choses en soi.
D'accord, merci à vous. La théorie du genre, ça vous inspire, monsieur Trémollet ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique? C'est quasiment devenu une polémique, ce qui est en train de dégonfler comme beaucoup de choses médiatiques.
Comme toutes les polémiques qui arrivent, ça arrive à un certain moment. On a l'impression que c'est un petit peu dirigé. Et je crois que finalement, les lycéens ont la tête bien claire là-dessus et ont apporté les réponses qui étaient nécessaires et suffisantes.
D'accord. Donc, on le rappelle. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la troisième personne à accepter cette invitation, après M. Lauenberg et M. Jouve la dernière fois. Et la semaine dernière, en fait. Et donc, les lycéens ont réfléchi un petit peu aux différentes compétences d'un conseil municipal, le rôle d'un maire. Et ils vont vous interroger. Ils ont plusieurs questions. Juste deux petites personnelles. Après, je leur laisse la parole. Enfin, personnelles, j'ai lu votre programme. Vous parlez du chantier de la piscine municipale, piscine couverte, qui serait installée au Martouré, c'est ça, j'ai bien compris? Ça vous différencie un peu d'autres listes? Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, tout à fait. Bon, tout d'abord, si vous permettez, je voudrais remercier Radio Diwa de faire l'interface un petit peu entre les lycéens. Donc, si j'ai bien compris, c'est le groupe 3C, c'est-à-dire c'est ça la classe. Et puis, me permettre d'intervenir avec eux. Et je suis d'autant plus satisfait que je vois des jeunes qui s'intéressent à la politique à un moment où, même surtout sur le plan national, on a des jeunes qui semblent se désintéresser de la politique. Finalement, ils ont peut-être des raisons de s'en désintéresser, et j'espère que sur le plan local, on va pouvoir leur apporter un petit peu l'envie de s'intéresser. Et je vois que je n'ai pas besoin de leur apporter l'envie, puisqu'ils sont là, ça veut dire qu'ils s'y intéressent, et ça me paraît très très intéressant. Tout d'abord, parce que ce sont des jeunes, et il me semble que sur une commune, il faut que les jeunes s'impliquent, et s'impliquent vraiment. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu à travers mon équipe, qui s'appelle d'ailleurs Futuradi. Et ces jeunes représentent le Futuradi. Hein, je vous présente la carte, c'est Futuradi. Et je considère que vous représentez l'avenir de Di. Parce que dans une liste, vous avez peut-être remarqué, d'ailleurs on m'en a fait la remarque, on m'a dit que j'avais une équipe très jeune, relativement. Mais moi je dis qu'à un moment, il faut que les jeunes participent, parce qu'on me dit, mais ils n'ont pas d'expérience. Mais si on ne les implique jamais, ils n'auront jamais d'expérience. Donc, si vous voulez, moi, j'ai voulu une liste à la fois d'expérience et à la fois de jeunesse, parce qu'il y a à la fois le calme de l'expérience et le dynamisme de la jeunesse. Voilà un petit peu ce que j'ai recherché dans la constitution de mon équipe.
D'accord. Donc, la jeunesse, vous la retrouvez ici. Encore plus jeune. Encore les plus futurs jeune. Citoyens, comme vous disiez, voilà. Juste au titre. Donc, la piscine, je reviens à des préoccupations matérielles.
Oui, j'avais un petit peu dévié, si vous voulez, mais je pense qu'il était important de présenter un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'ai constitué, pas tout seul d'ailleurs, parce que j'ai eu des gens qui m'ont rejoint sans que j'aille les chercher, et ça m'a fait très très plaisir, et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui a déterminé mon implication dans la vie politique. Pour revenir sur la piscine, effectivement c'est un petit peu le serpent de mer depuis quelques années, mais si on se souvient bien, je l'avais déjà proposé dans la mandature précédente, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire à travers la communauté de communes. D'ailleurs, un projet est établi, déjà établi depuis 2008, dans lequel il y avait deux parties pour la constitution du Martouré. Il y avait la première partie qui a été faite maintenant, mais je crois que la deuxième partie qui peut apporter un dynamisme économique à la ville de Die doit être faite maintenant. Et elle comprend notamment cette piscine couverte. Alors, on me rétorquera, et je pense que c'est un petit peu ce à quoi vous faites allusion, on me rétorquera les difficultés de financement. Mais il faut savoir que cette piscine couverte, si on la conçoit simplement pour la ville de Die, effectivement, ça peut être quelque chose de lourd au niveau du budget de fonctionnement. Par contre, si on l'implique avec la participation du lycée, puisqu'il y a une partie sport-études au lycée, si on l'implique par rapport
sport
à...
Sport-nature.
Sport-nature. Mais enfin, ils font beaucoup de sport aussi. Hein.
Oui, et ils étudient aussi.
Et ils étudient aussi.
C'est du sport-études de certaine manière.
Également. Donc, on peut l'inclure avec la participation du lycée. On peut l'inclure avec la participation de l'hôpital, puisqu'il peut y avoir du traitement. Et si mes informations sont bonnes, actuellement, on essaye de développer au niveau de l'hôpital de nouvelles spécialités, notamment au niveau du diabète. Et au niveau du diabète, il faut qu'il y ait une piscine. Donc cette piscine peut avoir aussi des financements venant de l'hôpital. En plus, et c'est une des particularités, la commune, bien sûr, interviendra, mais en plus, une des particularités de nos propositions que je n'ai pas trouvées par ailleurs pour l'instant, c'est qu'on a l'intention de créer une SEM, une SEM étant une société d'économie mixte, dans laquelle on fera participer des acteurs privés au financement, qui sont donc en participation avec la commune. La commune, bien sûr, étant majoritaire dans cette société d'économie mixte, qui pourrait donc contrôler toute cette activité. Donc je pense qu'avec ce type de financement, c'est parfaitement possible.
C'est une collaboration en fait entre communes et groupes privés. Je crois qu'à Cré, il est question d'un projet aussi qui ressemble un peu à ça, il me semble.
Je m'intéresse moins au budget de Cré, mais
j'en parle parce que c'est des coûts importants les piscines. Et c'est vrai que Cré, c'est à la fois loin et pas si loin que ça.
Tout à fait. Bon, j'ai lu par ailleurs et j'ai entendu ici également que cette piscine était un coût prohibitif pour la ville de Die. Je m'inscris en faux là-dessus parce que c'est une question de financement particulier. Et il faut un petit peu y réfléchir. Alors l'exemple qui était pris, c'était l'exemple de Bourg-de-Péage, qui est une piscine couverte immense, immense, je dis bien, un bassin de 25 mètres. On n'a pas besoin de ça à Die. Mais par contre, si on le fait d'une manière raisonnable, à la mesure du territoire d'Iwa, je pense que c'est fort possible.
Dans vos projets, aussi la création d'une résidence pour seniors, c'est ça?
Voilà,
alors,
également.
Vous n'avez pas peur de ce côté un peu communautaristes qui font que les personnes âgées sont entre elles, les jeunes entre eux, on en a autour. C'est parfois ce qu'on entend contre ce genre de résidence.
Oui,
c'est quoi l'idée de cette création à Die?
Oui, mais si vous voulez, ça participe un petit peu du développement économique. Alors d'abord, tout de suite, pour répondre à votre question...
C'est souvent bunkérisé, ce genre de choses.
Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des exemples, effectivement. Mais je crois que ça sera un apport très, très important pour le développement économique de Die. Vous savez que statistiquement, une villa qui est occupée par deux... une famille de seniors, jeunes seniors, induit en gros un emploi. Autrement dit, si on ramène 150 personnes, 150 seniors, on peut imaginer, directement ou indirectement, la création de 100 à 150 emplois. Pour répondre à votre bunkérisation, je pense qu'il ne faut pas être en retrait là-dessus. Parce que justement, vous posez là le problème de la démographie d'Iwaze. Si on réfléchit un petit peu, et c'est le départ de notre projet. On constate depuis les 20 dernières années que le département de la Drôme augmente de 20% par an sa démographie. Saillant, qui est juste à côté, c'est un exemple marquant. Je veux dire, ça existe, c'est tout proche, on peut le toucher du doigt, a augmenté sa population de 25%. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe à Die? Ces 20 dernières années, la population régresse. Donc autrement dit, je crois qu'il faut qu'on attire des gens d'un niveau moyen plus, si vous voulez. Parce que si on veut que nos commerces, l'activité de nos artisans, l'activité des prestataires de services augmente, il va bien falloir qu'on augmente la population. Parce que l'offre de services ne peut être utile que si en face, il y a de la demande. Et je crois que ça fait partie de cette demande-là. Alors vous me parlez du village senior, mais je pense aussi qu'on peut parler de Champs-Quéras, dans lequel il y aura un développement... Mais à condition que Champs-Quéras ne soit pas essentiellement un transfert de population. Il est vrai qu'il y a besoin de logements sociaux, il y en aura, mais je crois qu'essentiellement, il faudra porter le fer le plus possible sur un développement démographique, à savoir attirer des populations nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Drôme ou dans certaines petites villes comme Nyons? On a su attirer des gens, des populations venant du nord de la France, de Belgique, des Pays-Bas, et croyez-moi, ils s'en portent bien. Et je crois qu'Agnon, c'est un super exemple de ce type de développement.
Je connais un peu, je peux vous confirmer.
Voilà.
On va écouter le lycéen. De suite, je rappelle nos auditeurs qui peuvent intervenir et nous poser des questions au 0952 368 531. 0952 368 531. Et que vous pouvez désormais, n'oubliez pas aussi, aller sur la page Facebook de l'émission et lancer vos commentaires en direct. Quel est le premier qui veut poser une question? Ulysse? Et puis
oui.
Jimmy?
Avec cet appel à créer une sorte de lotissement pour personnes âgées, vous n'avez pas peur d'une gentrification de Die?
D'une, pardon?
D'une gentrification, c'est-à-dire que la population devienne une population plus âgée?
Non, mais de toute façon, le vieillissement de la population en général, ça ne sera pas particulier à Die. Sur tout le territoire national, les gens vieillissent, et justement, contrairement à ce qu'on peut penser... C'est une source d'économie, c'est une source de développement économique. Et je crois qu'à ce niveau-là, le gouvernement actuellement, et étrangement, j'en entends pas parler, veut faire un effort particulier sur ce développement économique. Il s'agit, c'est ce qu'on appelle la transition démographique. La transition démographique, c'est une grande source d'économie, une grande source de création d'emplois. Parce que au-delà de l'économie, qui plus est, c'est également... un problème de solidarité nationale, de solidarité entre les générations. Est-ce qu'on veut faire, à Die, je vais un petit peu fort contre ce que vous me dites, est-ce qu'on veut avoir à Die que des jeunes? Est-ce qu'on veut avoir que des vieux? Moi, je dis qu'on veut avoir tout le monde. Si vous voulez bien, il faut que les générations se croisent, discutent, travaillent ensemble. Et puis, de toute façon, c'est inimaginable d'avoir qu'une catégorie de personnes sur notre territoire.
Jimmy, notre question. À Monsieur Trémollet.
Si vous faites ce lieu pour seniors, où souhaitez-vous le placer?
On va peut-être, pardon, mais après changer de sujet.
Oui.
C'est un sujet important, on en a plein d'autres à traiter. Je ne vous censure pas, mais alors, oui, dernière question peut-être.
Pas de censure, c'est sûr.
C'est de ma faute, c'est moi qui ai lancé le sujet. Voilà. Du coup, vous le développez.
Oh, je pourrais en dire beaucoup. Si vous voulez le placer, c'est très simple, puisque donc, ça faisait partie du programme du Martouret. Vous savez qu'en bas du Martouret existe un terrain qui fait entre 6 et 7 hectares, qui est disponible. D'ailleurs, il y avait des accords avec la communauté de communes à l'époque. Je comprends que dans un mandat de 6 ans, la communauté de communes n'a pu faire que la première partie de ce programme, hein, qui était la remise en état du domaine du Martouret, ce qui a été très très bien fait, tant au niveau de l'accueil qu'au niveau de la réfection de la piscine, au niveau de l'isolation, au niveau de la restauration. Il y a eu des travaux importants qui ont été faits, mais je pense que dans un deuxième mandat, il faudra qu'on mette en route ce programme-là. Et juste un petit aparté, j'en profite pour dire, et vous l'avez sans doute lu, qu'il faudra quand même que la ville de Die, au niveau de la communauté de communes, sans vouloir être hégémoniste, prenne toute sa place. Vous savez que la ville de Die, on représente en gros 40% de la population, 50% des apports financiers au niveau de la communauté de communes. Il serait temps, parce que ça fait quand même 12 ans qu'on n'a pas occupé les postes clés au niveau de la communauté de communes, il serait temps qu'on ait une représentation significative au niveau de cette structure et qu'on puisse assurer et contrôler une grande part des décisions, parce que la ville de Die, c'est quand même, sans vouloir négliger tous mes collègues maires des communes à côté, que je connais très bien par ailleurs, je crois que la ville de Die doit prendre toute sa part dans le développement du territoire.
D'accord. Anne-Sophie ?
Alors, pour changer un peu de sujet, avec les deux premiers candidats, on avait évoqué le problème du square devant le lycée. Et donc, ils nous ont parlé qu'ils voulaient faire des réunions avec les différentes personnes qui sont concernées par ce problème. Donc, déjà, je voulais savoir si vous vouliez faire quelque chose et concrètement ce que vous nous proposez, parce qu'ils nous ont finalement pas répondu très précisément.
Ah, la fameuse langue de bois des politiques. Moi, si vous voulez, nous, vous n'avez pas de langue de bois, vous avez notre programme. Et je vais vous dire exactement ce qu'on compte faire. Bon, là, vous me parlez du square en face le lycée. Ça va au-delà du square en face le lycée. Vous me posez en gros et indirectement le problème de la sécurité d'Andy.
Aussi,
la sécurité d'Andy. Alors, je comprends que les lycéens qui sortent du lycée tout de suite, elle n'est pas très conviviale, cette place. Elle n'est pas très conviviale. Elle est souvent squattée, il faut dire les mots. Hein.
Le monument mort est très convivial. Si j'ose cette provocation, c'est bien ça le souci.
Je vais y venir. Mais ça fait partie d'une programmation d'ensemble. Je pense qu'effectivement, cette place, c'est un peu la vitrine de Die. C'est un lieu commun de le dire, mais c'est vrai. Quand on arrive de Cré, tous les touristes, ils passent par là. Effectivement, même s'il y a eu une amélioration ces derniers temps, il faut le reconnaître, puisque la place en face, le U, a été refaite d'une manière fort sympathique. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Au niveau des lycéens, alors deux choses. Ce n'était pas très convivial pour vous, mais je remarque aussi que beaucoup de lycéens se servent un petit peu de sofa du monument aux morts. Ça, je trouve que ce n'est pas une question de... C'est une question d'éducation, ce n'est pas une question d'instruction. Ça, ce n'est pas dans le lycée qu'on va vous l'apprendre. C'est à vous d'avoir suffisamment de recul au niveau de la réflexion. Le monument aux morts, c'est quand même la représentation de quelque chose d'important pour nos anciens, et je crois qu'il faut le conserver. Alors après, à savoir si ce monument aux morts est mal placé vis-à-vis de la sortie, ça c'est un autre problème, mais qu'on abordera dans le cadre de la réflexion éventuelle de cette place. Pour revenir à la deuxième partie de ce que j'évoquais, c'est un problème de sécurité. Je suppose que vous allez y venir, hein, vous allez me parler...
Vidéosurveillance.
Par exemple. Voilà. Mais moi, je ne l'appelle pas vidéosurveillance, je l'appelle vidéoprotection. Voilà. Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est le problème de la sécurité dans la ville. Si on regarde un petit peu les statistiques qui sont fournies par la sous-préfecture, ou la préfecture par indirectement, la gendarmerie, on constate malgré tout que, à Die comme ailleurs, quand on s'éloigne maintenant de la vallée du Rhône, l'effet de vols, de violences, commencent à venir aussi dans nos campagnes. Et je crois qu'on ne peut pas rester indifférent à ça. Alors, deux solutions. Soit on fait quelque chose, on le supporte, on dit bah, tout va bien, c'est pas ma position. Ou alors on dit bah, on prend des positions et on les applique. Pour revenir, vous me parlez de langue de bois tout à l'heure. Je vais reprendre le sujet là. Nous, tout est dans le programme. On ne va pas vous dire, écoutez, élisez-nous, et puis après, on vous fera des réunions, on fera des conférences, on prendra vos avis. Nous, on vous dit ce qu'on va faire. Tout est dedans. Autrement dit, le débat, nous, on est d'accord, mais le débat, c'est maintenant. Le débat, c'est maintenant, c'est pas après.
Ça rappelle quelque chose, ça. Le débat, c'est maintenant.
Oui, non, c'était le changement.
Non, il n'y avait pas de référence, je sais bien,
c'était
je sais
bien. Changement.
Ça ressemble étrangement.
Peut-être. Sauf
vous,
que
le
nous,
débat, c'est dès maintenant.
C'est ce sauf que nous, c'est écrit, on peut le lire facilement. Le débat, c'est maintenant, je le répète, et tout reviendra au choix des électeurs. Pour revenir sur cette ambiance de sécurité, et pour revenir aussi à la vidéosurveillance.
Donc, si quelqu'un, pardon, a un portable allumé, ça serait bien de l'éteindre, parce que j'ai peur pour le confort de nos auditeurs. C'est peut-être M. Trémollet lui-même. Désolé de vous interrompre, mais parce qu'on entend parfois des petites interférences. Non, c'est pas vous.
Voilà.
Pardon, on vous laisse continuer.
Non, mais
merci.
Pas du tout, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, il faut prendre globalement ce problème de sécurité. Le problème de sécurité, ce n'est pas que la vidéosurveillance, c'est un ensemble. C'est l'amélioration des places, c'est l'amélioration de l'éclairage, c'est l'amélioration de la circulation. En fait, c'est le vivre ensemble. Et la vidéosurveillance, pour moi, c'est une vidéoprotection. Alors, on pourra vous dire, oui, mais on va m'espionner, on va me regarder. Quand je vous regarde ici, j'ai l'impression que vous avez tous la conscience tranquille. Moi, si on me filme dans la rue, d'abord, on ne s'en apercevra même plus. Si on me filme dans la rue, j'ai rien à me reprocher et ça ne me dérange pas. Par contre, on ne peut pas sans arrêt dire la police municipale ne fait rien, la gendarmerie municipale, la gendarmerie nationale ne fait rien et ne pas leur apporter le coup de main nécessaire. Parce que j'ai entendu au même endroit, à ma place, un de mes concurrents dire « De toute façon, qu'il y ait eu la vidéosurveillance ou pas, on aurait trouvé les coupables. »
Monsieur Lowenberg, qui disait ça.
Je ne cite personne, moi, si vous voulez.
Je me permets de le citer, voilà, puisqu'on l'a reçu ici. Je m'en souviens très
moi,
bien.
Moi, pour être clair, si vous voulez...
Monsieur Jouve disait un peu la même chose, d'ailleurs. Hein,
je ne sais pas.
Si je me trompe, il disait ça, mais bon. Les deux étaient un peu dans le même...
Si vous voulez, pour être clair dans cette campagne, je n'ai pas d'adversaire. J'ai des concurrents que je respecte, parce que s'engager en politique, surtout sur le plan local, c'est déjà très courageux. Alors, je ne partage pas forcément toutes leurs opinions, je les respecte, mais par contre, j'exprime les miens. Et je pense que de leur côté, ils ont la même attitude.
Élise,
Allez-y, monsieur, vous voulez parler.
Mais je n'avais pas tout à fait terminé. Je disais que c'était un ensemble. Et la vidéoprotection, ce que vous appelez caméra, c'est une vidéoprotection. Il y a d'abord une part de protection immédiate, parce que quand on sait qu'on va être surveillé, ceux qui ont l'intention de mal agir peuvent un petit peu se méfier. Et ensuite, c'est un coup de main donné aux forces de police pour résoudre des problèmes qui se posent. Et d'ailleurs, l'été dernier, on a eu l'exemple frappant avec des incidents graves qui se sont passés. Et bien, c'est grâce à des caméras qui n'étaient pas de vidéoprotection municipale qu'on a pu trouver les auteurs. Et moi, je pense que, en ce qui nous concerne, je ne suis pas un fanat de la vidéoprotection, mais par contre, ce que je dis, et je le ferai si je suis élu, on mettra en place de la vidéoprotection, on testera. Et on verra si ça fonctionne ou pas.
Est-ce que ça veut dire plus d'impôts pour les Iwa? Parce que ça, j'ai aucune idée des coûts. Non, ce n'est pas des coûts énormes.
Non, alors vous me tendez la perche. Et c'est très très bien.
Saisissez-la.
Je la saisis, vous inquiétez pas, je l'ai saisie toute. Vous me tendez la perche parce que vous avez peut-être lu que nous avions une règle d'or. Et notre règle d'or, ce n'est pas d'endettement supplémentaire et pas d'impôts supplémentaires de la part communale pour les Iwa. Tout sera fait à imposition égale. D'ailleurs, si je peux me permettre... Il ne vous a pas échappé que j'ai été premier adjoint aux finances pendant 3 ans. Et j'avais imposé, donc, et ça a été fait pendant 6 ans, qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts au niveau, des impôts communaux pendant tout le mandat. Voilà. Je m'y tiendrai donc.
D'accord. Ulysse,
pour revenir à ce que vous appelez la vidéoprotection, ou ce qu'on peut appeler communément également la vidéosurveillance, il s'agit de la même chose. Des candidats ici ont évoqué le fait que la vidéosurveillance ne faisait que déplacer le problème aux endroits où il n'y avait pas de caméra. Que répondez-vous à cet argument-là?
Certes, mais s'il n'y a pas de caméra du tout, il peut y avoir des malhonnêtetés dans tout le secteur. Bon, et en plus, on aura quand même, j'espère, l'intelligence, et on se fera conseiller là-dessus, pour placer notre vidéoprotection dans les endroits stratégiques, si vous voulez, au niveau de Denis.
D'accord.
Adrien, trouve-toi une place. Adrien, le retour. Il ne voulait pas qu'on s'en rende compte, mais il vient d'arriver un peu en retard. Mais il a une vie très compliquée, Adrien.
Excusez-moi, un petit empêchement.
Va partager le micro avec Ulysse. Bonjour à toi. D'autres questions ? À monsieur Trémollet. Et puis le 0952 368 531. 0952 368 531 est toujours ouvert. Nous sommes en direct sur Radio Diwa. Quelqu'un nous appelle, justement ? Formidable. Bonjour, madame. C'est une dame, pour l'instant, c'est le seul indice. J'ai entendu que... Allô. Ça va beaucoup mieux. JR va nous permettre d'entendre cette auditrice dans deux petites secondes. Allô ? Oui, on vous entend d'un peu loin. Bonjour.
Ah, d'accord. Oui,
bonjour.
Mal, en fait.
Vous avez une question à poser ?
Vous m'entendez ?
Oui.
Oui, bonjour. Je peux vous poser ma question ?
Oui, oui, on vous écoute.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur Trémollet.
Bonjour.
Bonjour.
Je voulais... Oui, du coup, je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Voilà, alors donc, évidemment, je suis très très intéressée par le sujet que vous étiez en train d'évoquer, notamment par rapport à la sécurité. Et donc, j'entendais bien parler donc des caméras, c'est vrai que ce sont des choses qui sont proposées, effectivement, enfin, vidéo protection, hein, si je reprends vos termes. Moi, la question que je me pose, en fait, c'est que, bon, on parle de délinquance, bon, concernant, j'ai envie de dire, effectivement, mettons une petite délinquance, la vidéoprotection pourrait sûrement être utile, hein, j'imagine, si, comme vous dites, ça a déjà fait ses preuves. Moi, je voudrais plutôt parler du problème des incivilités, en fait. Parce que les incivilités, filmées ou pas, finalement, c'est quand même ce qui dérange le plus les diwas actuellement. Toutes les incivilités, je veux dire, je sais pas, moi, le fait d'alpader les gens, enfin, bon, d'embêter, bon, des gens qui se bagarrent sur la voie publique, bon, bref. Ce sont un peu des choses qui, finalement, ne nécessitent pas spécialement de la vidéosurveillance, mais plutôt, j'ai envie de dire, une réponse de fond, quoi. Est-ce que ça serait pas bien, peut-être, d'envisager autre chose du type, je sais pas, de l'éducatif, parce que finalement, les gens, on aura eu beau les filmer, qu'est-ce qu'on fait après, j'ai envie de dire, des populations un peu...
Donc une autre solution que les caméras, si ça votre question, si j'ai bien compris, notamment par rapport aux incivilités. Une autre méthode,
voilà,
moins radicale ou plus éducative,
si j'ai bien compris. Problèmes,
on va laisser répondre Monsieur Trémollet, peut-être.
Voilà, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre question, mais je l'ai parfaitement comprise. Il est certain que les caméras, c'est un des éléments de la sécurité. L'autre élément, effectivement, c'est la police, la gendarmerie nationale, la police municipale. Et moi, je prône un petit peu des patrouilles à pied, des patrouilles pédestres, de telle façon qu'on entre dans la deuxième phase de la sécurisation, à savoir que un petit peu la peur du gendarme, dans un premier temps, peut calmer certaines choses. Mais ce n'est certainement pas suffisant. Il faut, au niveau... de la fréquentation que nous avons sur 10, nous sommes un petit peu débordés par des personnes qui sont parfois agressives, faute d'alcoolisme, drogue, etc. Il faut à ce moment-là, effectivement, faire intervenir les services sociaux, et c'est quelque chose que nous envisageons très très fortement. Et puisqu'on vient au niveau des services sociaux, la ville de 10 supporte un petit peu l'ensemble, parce que tout retombe sur 10, la fréquentation vient sur 10. Donc la ville de Die supporte l'ensemble du traitement social de ces problèmes-là. Et je crois qu'à ce niveau-là, malgré toute la bonne volonté de la ville de Die, nous n'avons pas maintenant et suffisamment les moyens pour assurer un petit peu le social de tout le territoire. L'idée que je compte proposer et que je développerai dans un article prochain, c'est que cette partie sociale qui comprend la participation de la ville, la participation des associations caritatives, sociales, qui elles aussi supportent toute la partie communauté de communes, enfin toute la partie du territoire de la communauté de communes, ne peuvent plus maintenant faire face. La solution que je préconise, c'est qu'effectivement, ce traitement social de la délinquance ou ce traitement social des problèmes humains qui se posent dans le Diwa, comme dans beaucoup de territoires d'ailleurs, soit maintenant confié au niveau de la communauté de communes, qui a déjà commencé un petit peu le traitement social de ce problème, puisqu'elle a créé ce qu'on appelle le palais social. Je trouve d'ailleurs que c'est une excellente initiative, mais qu'il va falloir compléter par une participation effective, à savoir humaine, financière, pour qu'on puisse maintenant faire face à cette augmentation de ces problèmes-là.
D'accord, merci pour votre réponse. Je crois que la dame a raccroché, mais elle devait écouter, à mon avis, la réponse directement sur la radio, plutôt qu'au téléphone.
C'est gentil.
Merci en tout cas à cette dame d'avoir appelé. Ulysse, notre question ?
Autre sujet qui impacte beaucoup la commune. Vous déclarez dans votre programme, nous créerons une classe supplémentaire à l'école primaire de Chabestan. Au-delà de cette question, que comptez-vous mettre en place pour les rythmes scolaires à la rentrée 2014 ?
Pardon, est-ce que c'est tout à fait de la compétence du maire aussi ? J'en profite pour ajouter ça. La création des écoles, c'est plutôt au niveau d'inspection académique.
De réponse, si vous voulez, la création d'une classe en elle-même, la création, l'entité classe supplémentaire, c'est l'inspection académique ou le rectorat. Mais si vous voulez, nous, ce que nous voulons apporter aux enseignants, comme aux élèves, comme aux parents d'élèves, c'est un confort supplémentaire. Et je vais aller un petit peu au-delà de votre question. Il faudra une classe supplémentaire parce que je crois que la démographie actuelle au niveau de l'école maternelle nécessite la présence d'une classe supplémentaire. Et je crois que là, il faut, quand il s'agit de la jeunesse, quand il s'agit de l'éducation, il n'y a pas d'économie à faire. Il y a un coût, mais il n'y a pas de prix.
Et dans quelle mesure vous pouvez le faire, en fait, parce que comment ça se passe, enfin...
Nous, ce qu'on propose, c'est du matériel, à savoir, c'est la construction d'une classe. La construction d'une classe, ça dépend parfaitement de notre compétence, parce que vous savez qu'au niveau de l'éducation nationale, la compétence école primaire, c'est la commune. La compétence collège, c'est le département. Et la compétence région, la compétence lycée, c'est de la région. Donc là, c'est parfaitement dans notre champ d'action. Et j'en profite pour dire également que, pour avoir visité plusieurs fois la cantine scolaire qui connaît un succès fou, parce que on y mange très bien. Au niveau de la cantine scolaire, on développera également un bâtiment supplémentaire parce qu'il faut apporter un petit peu de la convivialité, du confort. Et vous savez qu'une cantine scolaire, les enfants, ça fait du bruit. Et plus on est serré, plus ça fait du bruit. Et je pense que si on mange dans le calme, dans un confort supplémentaire, c'est beaucoup plus agréable.
Il y a Ulysse qui rigole là, parce qu'il a des souvenirs de la cantine.
C'est non, pas du tout. C'est à propos d'autres choses.
D'accord. Pas faire des apartés comme ça, hein. Faites-nous partager vos apartés, vous la jouez perso là.
Non, c'est parce qu'on connaît le cuisinier qui...
On connaît,
d'accord.
On connaît le cuisinier. C'est le père d'une amie et qui cuisine d'accord, très bien en effet.
Mais je le connais très bien aussi et d'ailleurs, au cours d'un conseil municipal, un conseiller municipal nous a dit, écoutez monsieur le maire, c'était pas moi monsieur le maire, hein. Monsieur le maire, j'ai des reproches à vous faire. Alors on s'attendait à tout, sauf à la réponse. Il nous a dit, on mange tellement bien maintenant à la cantine que les enfants ne veulent plus venir manger à la maison.
Ça peut poser ce genre de soucis, voilà. Du coup, paradoxalement. D'autres questions sur d'autres domaines ? Peut-être la jeunesse, puisque vous êtes les premiers concernés, ou d'autres, hein, comme vous voulez. Oui, Jimmy ?
Avez-vous des projets en termes de sport ou de quoi que ce soit au niveau des lycéens,
par exemple, ou à propos du gymnase, par exemple.
Du gymnase, de la salle d'escalade.
Voilà. Tout ça. Vous en avez entièrement raison. Bon, je connais un petit peu le problème du gymnase puisque j'ai longtemps fait partie du bureau du handball et puis à mon arrivée en retraite à Die, j'ai joué pendant 2 années au handball loisir. Donc effectivement, tout le monde sait que le gymnase a des dimensions qui sont pas tout à fait suffisantes. On s'y adapte, mais c'est pas forcément, il faut pas forcément se contenter de ça. Donc, si vous voulez, si vous avez bien lu, mais tout le monde ne l'avait peut-être pas lu, le programme du Martouret phase 2 comprend, outre la piscine couverte, la création d'un gymnase et d'une salle polyvalente. Et puis si jamais on faisait le gymnase, on va le faire d'ailleurs, il faudra bien qu'il soit aux dimensions réglementaires. Parce que si je me suis laissé dire que si on voulait avoir des compétitions d'un niveau un petit peu plus élevé, on aurait peut-être des difficultés à recevoir les équipes parce qu'on ne serait pas réglementaire.
Magda, Adrien, qui vient d'arriver, pas de questions ? Sophie ? Alors Anne-Sophie. Et Ulysse.
Justement, par rapport à ce gymnase au Martouret, c'est une question toute bête, mais c'est pas un peu loin pour parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont à pied ou qui vont en vélo, et du coup, le fait de l'excentrer au Martouret, ça ne va pas poser problème.
Mais enfin, je sais pas. Vous me dites que c'est une question toute bête. C'est pas une question toute bête. C'est une très bonne question. Et comme disent les politiques qui font pas de langue de bois, ils disent je vous remercie de me l'avoir posée. Voilà. Vous ouvrez un petit
et
peu.
Et donc vous allez y répondre.
Et je vais y répondre, tout à fait. Voilà. Effectivement, alors l'avantage que l'on a là-bas, c'est qu'on est propriétaire des terrains. Et vous savez que des terrains, c'est difficile à trouver. D'une part, parce que les terrains constructibles sont chers. Et d'autre part, personnellement, je ne tiens pas à utiliser des terrains agricoles parce que les terrains agricoles, on est sans arrêt en train de manger, entre guillemets, aux agriculteurs une partie de leur territoire qui leur sont nécessaires pour leur travail. Et donc, on a une opportunité d'avoir des terrains existants. Pourquoi pas les utiliser? Vous avez élargi le problème en posant la question de l'éloignement. Alors effectivement, on est dans un secteur où j'ai entendu dire l'autre jour qu'on allait faire des chemins, des voies cyclables, etc. Je ne suis pas contre, c'est très bien même. Sauf que on est dans le Diois, l'hiver...
C'est M. Jouve et M. Lewenberg aussi, je crois.
Oui, ben, peut-être qu'ils l'ont évoqué, mais c'est très bien qu'ils l'aient évoqué. On a forcément à un moment des sujets communs. Le problème des pistes cyclables, oui, on en fera autant que possible d'abord, parce que la limite c'est le budget. L'autre limite c'est la matérialisation. On ne peut pas partout faire sur une route existante une piste cyclable. Si c'est possible, on la fera. Autre chose, je vais répondre, je n'ai pas perdu de vue la réponse. Hein. J'ai entendu aussi qu'autour du lycée ou autour du collège, on pouvait faire à la ronde 3 km de piste cyclable pour venir en vélo. Pourquoi pas, c'est très bien, et puis au niveau de la santé, c'est parfait. Sauf que, on est quand même dans une région où l'hiver est froid, parfois il pleut, c'est pas toujours très commode. En plus, il y a des déplacements de famille, il y a des jeunes enfants, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut pas généraliser, c'est très bien de vouloir le faire, c'est un bon signe, c'est un signe économie d'énergie, développement durable, on est tous d'accord là-dessus. Et comme disait Hulot, l'écologie, en fait, c'est transversal. Personne, à mon sens, pas plus moi que les autres, personne ne peut s'attribuer d'être plus écologique que les autres. Tout le monde. On est maintenant, de toute façon, on y vient, il va falloir y faire face, et il va falloir surtout y répondre. Pour revenir à la réponse de... C'est Anne-Sophie, hein, je crois. Oui. D'Anne-Sophie. Peut-être qu'on peut envisager des transports. Ceci, c'est la même chose, ça a un coût. Alors là, je ne m'engage pas, parce que j'entends dire qu'on va créer les jours de marché, des transports de tel parking à tel parking. Oui, tout est possible. Sauf c'est une question de coût. Et si on réfléchit bien, quand on est sur les parkings à 10, on n'est jamais qu'à 5 ou 10 minutes à pied du centre-ville. Donc à mon sens, on peut faire 5 ou 10 minutes à pied.
Vice ?
C'est la question que j'allais poser. Vous, dans l'article du Petit Diwa de la semaine dernière, vous dites...
Nous créerons le journal du Diwa.
Pardon.
Je sais que tout le monde appelle le Petit Diwa. Précisément, c'est le journal du
nous
Diwa.
Nous créerons 200 places de parking supplémentaires proches du centre-ville pour en faciliter la fréquentation. Il n'y a donc, selon vous, pas assez de places de parking?
Si j'en crois un petit peu ce que me disent les Diwa, effectivement, on a toujours cette question. Oui, mais on n'a pas de parking pour venir en centre-ville. Parce que... Il y a une opposition entre un centre-ville piétonnier et cyclable et la circulation des véhicules. Et si on veut avoir un centre-ville piétonnier et cyclable, il va bien falloir qu'on parque à quelque part les véhicules. Et puis vous savez que dans une famille, maintenant, il y a au minimum 2 voitures. Donc 2 voitures, ça fait beaucoup de véhicules et il faut les mettre à quelque part. Alors les 200 places de parking, je pense qu'elles sont nécessaires. Peut-être pas en hiver pour les Diwa. Mais je crois que c'est quand même une force d'attractivité pour le tourisme. Parce qu'on a la chance d'être d'être dans une zone de passage. Et je crois que si les gens ont la possibilité de se garer et de s'arrêter, on va peut-être les voir s'arrêter d'Andy, et on les verra certainement s'arrêter d'Andy. Notre objectif, nous, c'est de retenir les gens de passage de telle façon qu'ils viennent consommer chez nous.
Donc pour qu'ils viennent consommer, qu'ils s'arrêtent d'Andy, pas de déviation du coup.
Eh ben
ça s'appelle le sens de la transition.
Voilà, mais la question est très bonne et puis elle va de soi. Bon, ben là, vous connaissez ma position là-dessus puisque j'étais au conseil municipal au moment où on a fait un référendum. Donc moi, la population a été consultée là-dessus. Je suis un démocrate et je me dis que bon, ben, il faut s'en tenir au résultat du référendum. Et d'autre part, bon, j'ai lu encore une relance sur une déviation à 10. Moi, ma position, c'est que où est le problème? Le problème, il est estival. Estival, encore, on va le restreindre un petit peu. Il est du 10 juillet au 20 à 25 août, si on est gentil, où il y a un petit peu plus de circulation. Mais je n'ai jamais vu d'Andy des bouchons comme on a pu en voir par ailleurs.
Sur la Côte d'Azur.
Voilà, par exemple. Ah ben, c'est un bon exemple. Vous savez que j'ai été longtemps à Nice.
Ah non, je ne savais pas.
Voilà.
Vous connaissez.
Oui, tout à fait.
Les bouchons de la Côte d'Azur.
Voilà. Donc, et moi, notre position, parce que ce n'est pas que ma position, on en a discuté au niveau de notre équipe, notre position, nous, ce n'est pas de dévier les touristes, c'est au contraire de les faire rentrer d'Andy. Donc, si on met du parking de proximité, ils vont rentrer et ils auront une chance de s'arrêter. Parce que si vous traversez sur une déviation, vous avez l'exemple de Saillant, plein d'exemples, je peux vous en donner dans toute la vallée de la Drôme. Vous avez l'exemple de Saillant, où vous passez sur cette déviation. Ah, c'est sympa, vous trouvez que ce village est magnifique. D'ailleurs, depuis qu'il y a cette déviation, je trouve que Saillant est charmant. Et sauf que, quand vous passez à 70-80 à l'heure, il n'y a pas de parking de proximité, vous ne vous arrêtez pas.
Et vous ne pensez pas que plus on met des parkings, plus il y aura des voitures et...
Et moins il y aura de vélos.
Et moins il y aura de vélos et il y aura même plein de voitures et ils seront toujours pleins et ça ne posera pas un nouveau problème.
C'est le problème de l'appel, mais à dit, il y a quand même une limite. C'est le nombre de voitures existantes. Donc ce n'est pas parce que je vais faire des parkings que vous allez acheter une voiture supplémentaire.
C'est vrai. Alors il nous reste 5 minutes jusqu'à 13h10 pour finir ces 40 minutes. Donc choisissez bien vos questions, ciblez bien pour ne pas avoir de regrets. Oui. Ulysse, encore.
Ulysse est très actif.
Encore et toujours. Ulysse est très actif sur les réseaux sociaux. Non, je dis des bêtises. Et sur CCC.
Également.
Sur... Aussi, ouais, c'était pas une bêtise, ça va bien.
On va encore une fois poser cette question. Moi, elle me plaît. Il me semble qu'elle est pertinente. Qu'est-ce qui vous différencie du maire sortant?
Ouais, effectivement, c'est une question pertinente. Mais toutes les questions sont pertinentes. Moi, les différences, si vous voulez. Tout le monde connaît l'histoire, je ne vais pas la répéter ici. En ce qui me concerne, la page est tournée, je l'ai écrit dans le journal du Niwa, je l'ai écrit dans le Dauphiné. Au lendemain des cantonales, nous avons eu un différend. On a proposé en conseil des adjoints de me supprimer mes délégations. Bon, moi, on ne me supprime pas mes délégations. On ne m'a jamais rien supprimé, je ne vais pas commencer maintenant. Donc, j'ai préféré partir. Et puis, tout simplement, j'ai tourné la page. Mais je n'ai pas quitté des yeux la politique de Di. Je suis resté vigilant, j'ai observé, et puis à la limite, finalement, j'ai pris un petit peu de recul, et j'ai pu voir ce qui était bien, parce qu'il y avait quand même des choses de bien dans le programme précédent, il faut le reconnaître, et ce qui manquait un petit peu dans ce programme. Donc voilà, moi maintenant, si vous voulez, la page est tournée, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la campagne de Di, j'ai pas d'adversaire, je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure. J'ai des concurrents.
Monsieur Jou nous a dit la même chose la semaine dernière.
Eh bien, c'est très bien.
Donc, vous devriez vous entendre. Puisque aucun des deux n'est l'adversaire de l'autre, si je comprends bien.
Mais je suis l'adversaire de personne. Pas plus de Monsieur Jou, pas plus de Monsieur
Levenberg,
pas plus que de Monsieur Bergignat. Et moi, je trouve que, si je peux me permettre de faire un petit aparté, il est déjà remarquable, et c'est courageux, de s'engager en politique sur le plan municipal. Parce que, on est tout de suite, c'est une petite ville ici, tout le monde nous connaît, on est tout de suite un petit peu la cible, en quelque sorte. La cible des uns, la cible des autres. Moi, notre programme, il n'est pas parfait. Moi, il n'est pas parfait comme ceux des autres. Il n'existe pas de programme parfait. Par contre, je suis convaincu de ce qu'il contient, et c'est simplement le projet que je veux soutenir, et je ne m'occupe pas des autres, je m'occupe de mon projet. C'est déjà pas mal, je vous garantis que c'est déjà un boulot. Et je m'occupe de mon projet. Avec notre équipe, on va le défendre. Et ce qu'on veut essayer de faire, c'est de convaincre nos amis d'Iwa, les citoyens d'Iwa, que c'est le meilleur projet pour la ville de Nîmes.
Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas abordées et que rapidement vous voudriez ajouter? Ou une petite réflexion sur cet échange avec les lycéens qui arrivent bientôt à son terme? Est-ce que
les
questions vous ont surpris?
Non, surpris non, parce que ça faisait...
Vous avez trouvé pertinente
je les
ou pas, vous avez le droit de dire.
Ah non, mais je le dis très franchement, c'est pertinent. Et je les félicite encore de s'intéresser à la vie du d'Iwa. Moi, ce que je voudrais rajouter à cet entretien, je l'apprécie. Je l'apprécierais davantage, et je vous invite à y réfléchir. Je l'apprécierais davantage si vous provoquiez une table ronde entre tous les candidats, en public, où on pourrait peut-être limiter le public, mais on pourrait dire 50 personnes de chaque équipe.
Il me semble que Radio Diwa va proposer ça, alors pas forcément dans le cadre de CCC. Nous, on est preneurs, mais
avoir lu...
Peut-être dans votre
article
de la semaine. Tout à fait, mais j'enfonce le clou, si vous voulez.
Officiellement l'invitation,
parce que comme on n'a pas eu de réponse...
Ben vous êtes à la radio, vous avez raison, puis c'est
aussi
pour les autres candidats que vous lancez.
Je relance l'invitation, et moi je suis prêt à débattre, mais en toute franchise, en toute sincérité, et dans le calme, avec mes concurrents.
D'accord.
Et il me semble que pour les citoyens du Oise, ça serait éclaircir un petit peu les sujets.
Donc on appelle Monsieur Jouve... Monsieur Lewenberg et Monsieur Bergignat à débattre. Au passage, j'en profite pour rappeler Monsieur Bergignat qu'avant de débattre éventuellement, il peut venir. Toujours, il est toujours invité à CCC. Et que si une meilleure date, puisque donc il y a un souci de date aujourd'hui avec lui, lui convient davantage, il sera reçu volontiers. On a reçu tous les candidats à la mairie de Die, donc ça sera bien de recevoir aussi le maire actuel. Mais c'est bientôt les vacances scolaires. C'était un message presque pas subliminal, puisque nous avons des lycéens autour de la table. Eh bien, je vous remercie en tout cas. On vous remercie tous.
Merci beaucoup. En tout cas, c'était très très agréable.
Merci à vous.
Merci à vous.
C'était agréable. Merci. Je crois des deux côtés, et c'est bien que effectivement des jeunes futurs citoyens, encore une fois, posent des questions aux gens qui sont engagés dans la chose publique et la chose politique. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices, et on se retrouve normalement à la rentrée scolaire. Ça fait un petit bout, donc ça sera le mercredi de la rentrée, j'ai pas la date en tête, mais ça va être autour du 15 mars, sauf si, vous avez compris, ce qui précédait, si on a un autre invité d'ici là, peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant je n'ai pas de confirmation officielle, donc rendez-vous à très bientôt avec les lycéennes et lycéens qui vont prendre un peu de repos d'ici là, car ils ont bien bossé, bien travaillé sur ces invités politiques, c'était pas forcément quelque chose auquel ils étaient habitués jusque là, et c'était un bel exercice pour tout le monde. Restez à l'écoute de Radio Diwa, la radio du Diwa, la radio des Diwa, et même au-delà, 107.5. Nous étions en direct, il est 13h10, monsieur Trémollet a eu droit à 40 minutes, exactement comme les autres candidats. Nous sommes pour l'équité parfaite, car nous sommes surveillés par le CSA. Nous avons été rigoureux sur ce coup-là. Merci à tous, et à très bientôt pour un nouveau CCC comme C'est ça la classe. Au revoir les lycéens.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Merci encore.
C'est ça
la classe.
C'est ça la classe.
C'est ça la classe.